Production et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gamever.fr.
Sud Radio, il est 13h.
Parlons vrai.
Et tout de suite le flash avec François Germain.
Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, rappelle l'attachement de la France à une stabilité dans la région. Après les frappes israéliennes sur l'Iran, le ministre appelle à un cessez-le-feu. La France recommande à ses ressortissants d'éviter de se rendre en Israël comme en Iran. Les vols depuis et en direction de Téhéran sont suspendus et les liaisons entre Israël et la France sont également en voie de suspension. Dans ce contexte, l'Iran annonce une nouvelle attaque israélienne sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre du pays. Selon les autorités iraniennes, au moins 95 personnes ont été blessées dans les attaques aériennes menées par Israël. Une prise de parole du président iranien est attendue dans la journée. De son côté, l'armée israélienne indique que ses forces aériennes continuent d'intercepter des drones lancés depuis l'Iran. Peut-être des réponses à de nombreuses questions. L'une des boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé hier en Inde a été retrouvée et pourrait permettre de comprendre pourquoi l'appareil s'est crashé moins d'une minute après avoir décollé. Le drame a fait 265 morts, seul un passager a survécu. Les opérations de recherche se poursuivent. Un premier cas autochtone de chikungunya enregistré dans le Var. Jusque-là, depuis le début de l'année, tous les cas de chikungunya recensés en métropole provenaient de contaminations hors du territoire, essentiellement à La Réunion, frappée par une épidémie sans précédent. Selon l'agence régionale de santé de PACA, des mesures sont mises en œuvre pour limiter tout risque de propagation de la maladie. L'épreuve écrite du bac français ce matin, les lycéens de la filière générale avaient 4 heures pour rédiger une dissertation ou un commentaire de texte. Après cette partie écrite, les candidats devront passer dans quelques jours un oral. Et puis 28 départements en vigilance orange aux orages, du nord à la Sarthe en passant par l'Eure. Dans le sud-ouest, la vigilance s'étend de la Dordogne à l'Ariège. Météo France alerte sur un fort risque de phénomènes localement violents, avec des rafales de vent pouvant atteindre à certains endroits 120 km/h. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi.
Merci François. Ah, mais vous savez que ce week-end, c'est la fête des pères. Et figurez-vous que vous pouvez gagner pour votre papa adoré un bracelet personnalisé de la collection Lettres du Vent à la Française. Hein, un bijou au nom, par exemple, du papa, totalement customisable. Pour ça, c'est simple, 0826-300-300, vous appelez le standard de Sud Radio et le bracelet est offert au 10e appel. Voilà, on en parlera tout à l'heure pour le gagnant.
La météo Sud Radio.
Et tout de suite, c'est la météo avec Rémi André.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, la situation devient compliquée cet après-midi. Nous allons commencer par le nord-ouest où de gros nuages commencent à se former. Et là, depuis les Pays de la Loire, jusque vers la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France, eh bien, la situation va se compliquer dans l'après-midi. Alors, c'est surtout sur la Normandie, le bassin parisien, la Picardie et les Hauts-de-France que nous avons là une vigilance orange qui va concerner donc ce secteur avec des orages qui peuvent être forts, voire violents dans l'après-midi et la soirée. Des orages qui peuvent non seulement laisser tomber de la grêle, mais de fortes précipitations ainsi que de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. Prudence dans tout ce secteur qui va donc de la Normandie jusque vers les Hauts-de-France. En fait, il fait chaud, il fait même très chaud, et de l'air plus frais arrivant par la Bretagne, eh bien cela va nous donner une situation plutôt explosive. Mais en même temps, eh bien de l'instabilité sur l'Espagne va franchir également les Pyrénées, et là c'est l'Aquitaine et Midi-Pyrénées qui sont concernés. Là aussi on a une dizaine de départements qui sont en vigilance orange, car là aussi la grêle, les pluies fortes, les rafales de vent sont tout à fait prévisibles. Cette situation orageuse va se poursuivre demain entre le Massif central et le nord-est, et puis dimanche c'est entre le sud-ouest et le nord-est que nous aurons encore une situation orageuse assez marquée. Donc à partir de cet après-midi jusqu'à dimanche, eh bien prudence, les orages pourront être localement très forts.
Merci Rémi André.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invité pour parler de cette situation entre Israël et l'Iran est Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur du livre La face cachée des Mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions du Cerf. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, les dernières nouvelles, on faisait le point avec notre journaliste Jules Boscherini. 94 personnes blessées par les attaques menées dans la nuit par Israël. Et sur surtout des hauts dignitaires du régime, hein, notamment le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, mais aussi le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, hein, qui aurait été éliminé lors de ces frappes. Qu'est-ce que veut dire le timing et le choix d'Israël d'attaquer l'Iran de cette façon-là pour couper court, hein, c'est ce qui est dit, au programme nucléaire?
La menace iranienne qui pesait sur Israël est une menace existentielle. Vous l'avez entendu il y a moins d'une heure, hein, le porte-parole de l'armée israélienne dire que les Iraniens, la République islamique d'Iran, étaient sur le point d'obtenir 15 bombes nucléaires. Mmh. Il suffit, vous savez, moi je suis souvent sur le terrain au Moyen-Orient, mais il y a une chose qui est importante, c'est de lire tout ce qui a été écrit par l'ayatollah Khomeini, hein, le fondateur de la République islamique d'Iran, mmh, et de la constitution iranienne. Il faut comprendre que le nucléaire, c'est l'un des piliers de ce régime. Détruire Israël, c'est aussi, je dirais, l'un des piliers, cette volonté de destruction en fait de l'État hébreu, c'est l'un des piliers, si vous voulez, de la propagande du régime depuis en fait son avènement en 1979. Mmh. Donc quand je parle de menace existentielle, c'est parce que cette menace, elle existait de façon extrêmement claire, que évidemment aujourd'hui, on le sait tous, la République islamique d'Iran, elle fait face, si vous voulez, à moult difficultés, à savoir que il y a plus d'électricité, il y a plus d'eau potable sur 2/3 du territoire. Vous avez des gens qui se suicident en pagaille depuis des mois et des mois parce que les gens n'ont pas d'argent, sont au chômage, n'ont pas à manger. Vous savez qu'un Iranien sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc le seul moyen de tenir pour cette République islamique, qui a vu par ailleurs, hein, ses proxys décapités au Proche-Orient, je parle du Hezbollah évidemment, je parle de la chute, je fais allusion à la chute aussi du régime de Bachar el-Assad, si vous voulez, aujourd'hui sa force, son influence tiennent, mmh, sur le nucléaire, bien sûr, d'une part, puis aussi sur le programme des missiles tactiques, hein, aussi, qui est important. Donc, je pense qu'Israël, si vous voulez, a décidé de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette menace, ouais, qui est une réalité, je le répète, parce que j'entends parfois un certain nombre de pseudo-experts de l'Iran dire des bêtises. Aujourd'hui, ce régime est une menace pour l'ensemble de la stabilité, si vous voulez, de l'ensemble des pays occidentaux, ouais, des démocraties occidentales, et bien sûr aussi du Moyen-Orient. Je rappelle que l'Iran est quand même une puissance menaçante, par exemple dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, si vous voulez, qui déstabilise régulièrement. Or, le détroit d'Ormuz, c'est un lieu de passage extrêmement important du commerce international, et notamment en fait de tout ce qui est produit en fait énergétique, pétrole, gaz, etc. Donc je pense que Israël, si vous voulez, fait le job, hein, je vais être très clair avec vous, je pense que Israël fait le job à la place des démocraties occidentales, parce que étant le pays le mieux placé pour avoir conscience, si vous voulez, de la menace existentielle que représente la République islamique d'Iran.
Mais est-ce que c'est pas provoqué finalement, Emmanuel Razavi, certes une menace existentielle, d'attaquer de cette façon unilatérale, de chercher l'escalade, puisque directement l'Iran a appelé ça une déclaration de guerre. Donc est-ce qu'il n'y a pas là une prophétie autoréalisatrice qui risque d'arriver dans cette opération?
Ben, c'est une déclaration de guerre, mais la réalité, c'est que ceux qui ont, je dirais, qui sont à l'origine de cette déclaration de guerre, ce sont les mollahs, ce sont les gardiens de la révolution. Mmh. Tout a commencé par la faute de la République islamique d'Iran. C'est la République islamique d'Iran qui finance et parraine, parmi tant d'autres d'ailleurs, le Hamas. Et c'est le Hamas qui a fait ce pogrom sur Israël le 7 octobre 2023. C'est la République islamique d'Iran qui finance, je peux bien vous en parler, le Hezbollah. Hein, j'ai fait plusieurs reportages sur le Hezbollah. Mmh. Qui finance CAM et qui encadre le Hezbollah libanais depuis 1982, Hezbollah libanais qui a lancé moult attaques contre Israël, y compris des attaques en fait terroristes. Si vous voulez, il faut comprendre une chose. Téhéran est très fort en matière de communication et notamment en matière d'influence. J'avais hier au téléphone un consultant en fait du FBI qui travaille notamment en fait sur la menace que représentent les agents d'influence, si vous voulez, du régime iranien aux États-Unis. J'ai eu un autre spécialiste en fait du Département d'État dans la matinée qui me disait que c'était plus de 30 000 en fait agents d'influence qu'avaient rien qu'aux États-Unis en fait l'Iran, et qu'ils déployaient ces gens-là aujourd'hui pour essayer en fait d'inverser, comment dire, la réalité, c'est-à-dire faire porter en fait la responsabilité de cette guerre, hein, qui a commencé sur Israël, alors que c'est bien sûr eux. C'est un régime affaibli. Attention, hein, c'est un régime qui est encore existant, mais vous l'avez vu, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, en début d'émission, l'aviation israélienne a décapité quand même les états-majors de l'aviation iranienne, du SEPA, des gardiens, les fameux gardiens de la, comment dire, de la révolution. Ils ont tué le chef d'état-major de l'armée iranienne. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de menaces iraniennes, au contraire. Donc l'Iran va jouer énormément en fait sa carte de l'influence, elle est très forte pour ça, y compris, je le dis pour vos auditeurs d'ailleurs, en France. L'ambassade d'Iran à Paris, hein, c'est un des comment dire, des carrefours, je dirais, de l'influence iranienne en France, mais aussi en fait en Europe, hein, de l'influence auprès de nos diplomaties notamment, mais... y compris parfois aussi de certains chercheurs.
Justement, la France a un rôle particulier puisque c'est elle qui avait hébergé l'ayatollah Khomeini à l'époque, hein, avant qu'il ne fasse cette révolution islamique en Iran. Pourquoi cette position française à l'époque et puis pendant des années, la France a fait de l'Iran un partenaire commercial important aussi.
C'est ce que je raconte dans mon livre, La face cachée des mollahs. C'est comment, en fait, une histoire, un espèce de récit qui n'avait rien à voir avec la réalité a été importé via la presse française, certains intellectuels comme Jean-Paul Sartre ou le philosophe Michel Foucault à l'époque. Je vous rappelle, en 1977-78, on oublie complètement que le Shah d'Iran a amené le progrès dans le pays, qu'il a amené notamment l'égalité homme-femme, notamment via grâce au travail de l'impératrice, hein, de la Chabane. On oublie par exemple que le voile n'est plus obligatoire, on oublie que le planning familial existe, que les
femmes...
On
n'a pas oublié, si, quand même, les photos de l'Iran avant-après circulent beaucoup, quand même.
Écoutez, en 78, je regardais ce qu'ont écrit Michel Foucault, Paul Sartre, ils ne parlent que d'un bourreau, que d'un tyran, en parlant du Shah d'Iran. Et en fait, ils importent en fait un récit, si vous voulez, parce qu'ils sont en lien directement avec l'état-major de l'ayatollah Khomeini, ils importent en fait le récit à la fois des islamistes et de l'extrême-gauche. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, donc je peux vous le dire.
Bien sûr, c'est votre livre.
On vit en fait à l'époque un peu ce qui s'est passé avec, vous savez, le Hamas depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire que les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent les bourreaux. Et si vous voulez, cette intelligentsia en fait d'extrême gauche intellectuelle française va porter en fait un discours qui va contribuer à effacer tout le progrès qui a été mis en place, si vous voulez, par la dynastie des Pahlavis. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, c'est une évidence, mais en tout cas, les Iraniens étaient plus libres à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, je pense que la France, elle a une place particulière parce qu'elle a, comme les États-Unis d'ailleurs, hein, alors elle a soutenu un régime islamiste à l'époque. C'est elle qui a contribué à le mettre en place. Elle a été dégagée très rapidement. Il faut se souvenir que dès la prise de pouvoir de Khomeini, l'ambassadeur d'Iran qu'il nomme en France, tout de suite, dit à la France, bon, game over, terminé de jouer. On va changer maintenant on va changer de braquet avec vous. Donc la France se retrouve trahie par cela même qu'elle a soutenu. Aujourd'hui encore, il faut pas l'oublier, on a une diplomatie qui est à l'écoute, je le dis pour Jean-Noël Barrot notamment, je pense de chercheurs, qui sont des chercheurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'Iran, qui sont des gens qui sont très sensibles au discours islamiste, frériste en général, hein, des frères musulmans. Faut pas oublier que Ali Khamenei, le guide de la République islamique d'Iran, c'est le traducteur officiel d'un des plus grands penseurs fréristes en Iran, qui est Sayed Qutb. Hein. On est vraiment dans cette mouvance chiite, hein, des frères musulmans, même si les frères musulmans sont majoritairement sunnites, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de chercheurs qui influencent la diplomatie française, mais pas que, comme la diplomatie américaine d'ailleurs, sur le fait qu'il faut continuer à négocier en fait avec l'Iran. Or, ces chercheurs oublient une chose, c'est que l'Iran est un régime terroriste, un régime narco, j'en ai parlé sur près d'une centaine de pages dans mon livre.
La face cachée des mollahs, Emmanuel Razavi, aux éditions du CERF.
La face cachée des mollahs, effectivement. Si vous voulez, il faut à un moment donné prendre conscience que ce régime est un régime tyrannique, qui tue, qui massacre sa population, qui a institutionnalisé en fait le viol. En face de ça, moi, je connais bien, parce que pour Paris Match, j'ai beaucoup travaillé sur les oppositions iraniennes. Donc, que ce soit les oppositions kurdes, plutôt à gauche, voire à l'extrême gauche, monarchistes, de Reza Pahlavi, les oppositions libérales. Les chercheurs aujourd'hui, qui parlent au Quai d'Orsay, ne connaissent pas ces oppositions, elles y ont pas à faire, je peux vous le dire. Et donc, elles livrent un discours qui est un discours, si vous voulez, qui est le discours tenu par les agents d'influence. Ce que je vous dis là, c'est un peu raide, hein. C'est la première fois que je le dis de façon aussi raide.
Oui, parce que là, on a l'impression que le Quai d'Orsay est sous influence, c'est ce que vous nous dites.
Oui. Ah ben, c'est pas une impression. Moi, je vous le dis, d'ailleurs, je le raconte dans mon prochain bouquin, il y a une réalité. Il y a des gens qui ont été, si vous voulez, soit par idéologie, soit parfois parce qu'ils ont été payés par la République islamique d'Iran, qui produisent encore aujourd'hui un discours, si vous voulez, qui est favorable à un régime qui torture, qui persécute sa population. Je le dis, c'est important parce que moi, je suis d'origine iranienne, je suis franco-iranien, je connais bien l'Iran, je discute avec l'Iran.
On va devoir marquer une courte pause, mais on va parler de la diaspora iranienne, justement, et puis quand même de cette perception hein, de la République islamique au sein de la société française, avec ces débats qui sont importés d'une certaine façon. On est sur Sud Radio, on va marquer une courte pause et puis se retrouver avec notre invité Emmanuel Razavi dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Pas très confort ces transats, non ?
Ah, je suis bien, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là ?
Tu veux dire la mer ?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0 € après bonus écologique de 2 000 € déduit. Sous réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Pensez à covoiturer.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio.
Petit, on a tous voulu jouer avec les plus gros camions. Aujourd'hui, le circuit Polar Maniaque de Nogaro nous annonce l'un de ses événements les plus impressionnants, le Grand Prix Camion.
Les 21 et 22 juin, les meilleurs pilotes s'affrontent sur 4 courses spectaculaires. Le Grand Prix Camion, c'est aussi la Legends Cars Cup, la Sprint Cup by Fenio, les parades en ville, le Festi Truck avec ses camions décorés et un véritable salon professionnel du transport.
Les 21 et 22 juin, c'est le Grand Prix Camion de Nogaro. Info sur circuit-nogaro.com.
Découvrez la nouvelle gamme Desperados Sunlight avec ses saveurs citron-citron vert, cerise grenade et mangue passion. Elles ont toutes des notes légères. Mais attention, ce sont des Desperados Sunlight. Chaque saveur a son univers. Nouvelle gamme Desperados Sunlight, le goût fruité de la légèreté. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Nouveau Ford Puma Gen E, le félin passe à l'électrique. À partir de 189 € par mois, réservez votre essai sur Ford.fr. Porte ouverte ce week-end. Ford. Puma Gen E Standard Range LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990 € après déduction du bonus écologique. Offre à particulier jusqu'au 30 juin si accord Bremanilise. Détails sur Ford.fr. Ouverture selon autorisation. Pensez à covoiturer.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 9 ans en France, est à découvrir à partir de 99 € par mois pendant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Offre réservée aux particuliers, valable du 12 au 16 juin pour Sandero Essentiel SE 65,9 € option. Premier loyer 1 700 € LLD 49 mois 50 000 km si accordiaque. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à date à janvier 2025. Pensez à covoiturer.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Vous êtes d'accord, Claire ?
Je suis toujours d'accord.
Eh bien, en ce moment, pendant le Top Rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 20% du montant dépensé sur tous les produits du rayon Marée Libre Service.
Crevettes, saumon, paella de la mer, ce soir c'est dîner marin sans faire de vagues sur le budget.
Et téléchargez l'appli Netto France pour découvrir tout le prospectus.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et on se retrouve avec notre invité sur Sud Radio, Emmanuel Razavi, grand reporter autour du livre La face cachée des mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran, pour parler de cette escalade entre Israël et l'Iran dans une guerre qui dure depuis longtemps. Quelle peut être la réponse de l'Iran à ces attaques on se rappelle de la dernière fois où il y avait déjà eu des opérations et une réponse de l'Iran qui avait été entièrement arrêté par Israël, qui était une salve de drones et de quelques missiles balistiques. Est-ce que là, l'Iran peut passer au cap supérieur et frapper des cibles stratégiques en Israël ?
Je crois qu'il y a trois niveaux en fait de réponse. Il y a d'abord en fait un niveau de réponse militaire. Vous savez que l'Iran dispose d'une grosse capacité en fait en termes de missiles. Mm-hmm. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique d'Iran, depuis plusieurs jours, menace de frapper les bases américaines ainsi que les ambassades en fait au Moyen-Orient. Donc ça c'est déjà, je dirais, un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui s'appelle le terrorisme, c'est-à-dire que les Iraniens notamment lorsqu'ils sont affaiblis en général ciblent bien sûr des intérêts israéliens à l'étranger, mais ça peut être aussi des associations juives, ça peut être des infrastructures. Donc évidemment Israël va se retrouver, je pense, ciblé à travers le monde, à travers ses représentations diplomatiques, ses différents intérêts. C'est à peu près une évidence, mais il y a le terrorisme, je dirais, qui peut frapper aussi. C'est ce que me disaient mes interlocuteurs, d'ailleurs, qui peut frapper autant aux États-Unis qu'en Israël, bien sûr, mais qu'en Europe, qu'en France, pour être très clair. Et il y a un troisième niveau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'influence. Parce qu'en 40 ans, la République islamique d'Iran, donc qui a émergé en 1979, elle a mis la main sur un réseau d'ambassades à travers le monde, notamment en Europe, qui lui a permis de déployer, si vous voulez, énormément en fait d'espions, mais aussi en fait d'agents d'influence qui avaient pour mission, notamment ces 10 dernières années, si vous voulez, d'approcher en fait les diplomaties européennes, françaises en priorité, américaines, pour leur faire passer, si vous voulez, des messages qui allait très clairement contre la réalité, mais de faire passer, si vous voulez, des messages via très souvent des chercheurs, des diplomates, parfois des journalistes d'ailleurs, des think tanks d'ailleurs, voilà, qui vont dans le sens d'un, plutôt d'un manque de soutien, en tout cas, pousser Israël à ne pas attaquer l'Iran. Bon, là, c'est loupé. Et en l'occurrence, faire en sorte...
Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Ce réseau d'agents d'influence, enfin, l'Iran est un nain en termes d'influence par rapport à Israël, qui a tout le Congrès américain à sa main, et Donald Trump, qui est 100% derrière Netanyahou. Enfin, on voit bien que la stratégie iranienne n'a pas fonctionné, là.
Ben, elle a fonctionné pendant 45 ans, quand même. Elle ne fonctionne plus là, peut-être depuis hier soir, mais elle a fonctionné pendant 45, même 46 ans. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que vous avez raison, sans doute, sur le Congrès américain. En revanche, au sein de l'Europe, j'en parle dans mon livre La face cachée des Mollahs. Je donne même le nom, d'ailleurs, du lobbyiste, si vous voulez, du régime iranien, en fait, à Bruxelles. Ils ont vraiment tissé par leur diplomatie des liens d'influence qu'il faut pas sous-estimer en Europe, à Bruxelles, en Allemagne, en France, je le répète encore une fois, avec des gens, d'ailleurs c'est les mêmes qui prennent la défense en général, si vous voulez, des organisations comme le FPLP ou le Hamas, qui vont vous expliquer que Israël est dangereux pour l'Iran, occultant le fait que c'est l'Iran qui a déclaré depuis la République islamique d'Iran, mais depuis 1979, dit qu'il faut rayer en fait Israël.
Oui, qui est quand même une des permanentes du régime iranien, de refuser de reconnaître l'État d'Israël. Mais il y a aussi quand même aujourd'hui, je pense que c'est un point important sur le respect du droit international. On a l'impression que Israël, sous prétexte de se défendre, a tous les droits. La Syrie, le Liban, la Cisjordanie, Gaza et maintenant l'Iran, et aucune sanction et rien, si ce n'est de dire c'est dans l'intérêt et la défense d'Israël. Mais il y a quand même le droit international.
Écoutez, le droit international ne permet pas à une organisation terroriste, que je sache, de commettre un pogrom comme celui du 7 octobre 2023.
Mais le droit international ne permet pas non plus des crimes de guerre comme on a vu à Gaza.
Non, mais attendez, je suis pas en train de vous dire ça. Oui. Je suis sûr que, vous savez, dans les guerres, j'en ai couvert suffisamment pour savoir que dans les guerres, il y a toujours de toute façon des crimes, des tragédies, etc. En revanche, il y a quand même à l'origine un pogrom, une attaque terroriste qui vient du Hamas, du FPLP, d'un certain nombre d'organisations terroristes palestiniennes. Il faut pas l'oublier. La deuxième chose, qui finance ces organisations terroristes palestiniennes ? Pour partie, c'est la République islamique d'Iran qui les arme, qui les entraîne. C'est vrai pour le FPLP, c'est vrai pour le Hamas.
Et le Hezbollah aussi, au Liban.
Non, pour le Hezbollah, je parlais des Palestiniens, mais le Hezbollah libanais depuis 1982. Et le droit international, si vous voulez, aujourd'hui, a tendance quand même à être manipulé dans un sens et pas dans l'autre. Israël, on peut ne pas aimer Israël. Israël est critiquable. Bibi Netanyahou, très clairement, est critiquable. Moi, je dis pas autre chose. Sauf que c'est une démocratie qui est attaquée quotidiennement depuis des années sur son sol, par le biais du terrorisme notamment, par des groupes terroristes qui sont ce qu'on appelle les proxys de Téhéran, donc aux ordres de la République islamique d'Iran et des gardiens de la révolution. Le corps des gardiens de la révolution islamique, je le rappelle pour vos auditeurs, c'est le bras armé du régime, d'accord ? C'est un véritable État dans l'État, d'ailleurs, en Iran.
Voilà, c'est aussi une police politique, on voit la façon dont les militants féministes sont traités,
aussi. Et si vous voulez, cette démocratie israélienne aujourd'hui, elle est quand même laissée seule face je dirais, à cette menace existentielle qui veut la rayer de la carte, hein, la République islamique d'Iran, faut relire les textes. Moi, écoutez, tous ces chercheurs que j'entends parler, pas tous, mais un certain nombre, ils ont pas lu les textes de Khomeini. Je donne des extraits dans mon livre La face cachée des Mollahs. Ils ont pas lu la constitution iranienne. Tout ça est raconté de façon très claire et ça constitue le pilier de la doctrine, si vous voulez, du régime iranien. Rayer Israël de la carte. Et évidemment en ayant des bombes nucléaires. Donc la menace existentielle, elle est là. Moi, je dis pas autre chose. Après que si vous voulez, il y a des tragédies qui jouent à Gaza.
Bien sûr, plus que des tragédies, des crimes de guerre.
On ne peut que verser des larmes sur les civils palestiniens qui meurent chaque jour. Je vous dis pas autre chose, mais je dis en même temps qu'il faut garder à l'esprit.
Mais au-delà des larmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand même la communauté internationale. On voit comment cette communauté a réagi face à la Russie quand les chars russes sont arrivés en Ukraine. Les sanctions sont arrivées immédiatement sur Israël. On voit bien que là, on a l'impression, et vous l'avez dit, hein, Israël fait le job. C'est-à-dire qu'on laisse faire parce que personne ne veut faire la guerre à l'Iran, et donc on ne déclare pas et on va organiser cette guerre-là, alors que c'est une guerre hybride. Hein, on parlait du Hezbollah, du Hamas, de ces milices financées. Et donc, il y a une hypocrisie totale qui dit, bah oui, finalement, c'est une guerre qu'on ne veut pas faire, donc on va laisser faire.
Et de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, la France, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de laisser faire. Elle a lâché de façon très claire, en fait, Israël sur le plan diplomatique. Et on préfère aujourd'hui se soucier, si vous voulez, d'une Rima Hassan qui va emmerder tout le monde, en fait, là-bas.
Pas emmerder. Elle rappelle qu'il y a quand même des exactions à Gaza. Et c'était, voilà, c'était dans ce cadre-là que la flottille est partie.
Ah ben attendez, si Rima Hassan a besoin en fait de participer à une flottille pour rappeler qu'il y a une tragédie qui se joue à Gaza, je voudrais juste l'informer quand même qu'on l'a pas attendu et qu'il y a des journalistes.
Non, mais ça a marché. Il y avait du monde à la République. Vous voyez, ça fonctionne.
Depuis très longtemps.
Bah oui, mais ça fonctionne. Et d'ailleurs, un journaliste, hein, je rappelle que Yanis Mamdi, journaliste de Blast, est toujours en prison en Israël.
Écoutez, moi je sais une chose, Rima Hassan, elle était sur un bateau, comme ce journaliste, en présence d'un agent d'influence du régime iranien, un Brésilien. Oui. Ce bateau, parmi les gens qui ont organisé cette flottille, il y a en fait un représentant du Hamas en Europe qui est basé à Londres. Moi, j'entends tout ce que vous me dites, hein. Et un journaliste n'a pas à être retenu en prison dans une démocratie, j'entends ça. Mais les gens qui étaient sur cette flottille, si vous voulez, sont des militants. Avant même.
Pas tous, parce qu'il y avait des journalistes, vous venez de le dire.
Journaliste militant, vous lisez Blast, j'imagine comme moi, c'est un journal qui a des positions, qui sont des positions aujourd'hui, qui sont en faveur d'organisations, qui sont souvent qualifiées d'organisations terroristes pour certaines, le FPLP notamment. C'est leur droit, encore une fois, moi, écoutez...
Ça, c'est votre propos, hein, mais oui, effectivement, mais...
Ah oui, bien sûr, oui, mais attendez, vous n'attendez pas de moi que je vienne vous dire que Blast défend les démocraties.
Je pense que si, mais enfin, c'est pas le débat.
Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté éditoriale et c'est normal, ça participe de la pluralité de la presse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas tomber en fait dans un piège qui consiste, si vous voulez, à inverser la charge des responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait croire que les bourreaux sont les victimes et les victimes les bourreaux. Moi, ça me gêne énormément et je n'oublie pas en tant que journaliste, d'accord, encore une fois, que Israël, qui est très critiquable, est une démocratie. Et il me semble que quand le Hamas a opéré son pogrom le 7 octobre 2023, on a vu ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai été en Israël. J'ai vu les maisons des kibbutz. C'est terrible. J'ai vu des photos qui n'ont pas été diffusées dans la presse, que m'ont montré les policiers sur place. C'est horrible. Ça fait penser, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé là-bas, ça m'a fait penser aux divisions d'Asraj, vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Qui brûlaient tout sur leur passage, bien sûr.
Qui brûlaient tout en flammes sur leur passage.
Radour, etc.
Et si vous voulez, aujourd'hui, je me méfie d'une chose, mais je veux pas faire une discussion de comptoir, mais de façon factuelle.
Non.
On doit être factuel. Il faut faire attention à ces gens aujourd'hui, qui sont des relais, alors volontaires ou pas volontaires d'ailleurs, d'influence, d'organisations qui se font passer pour des victimes, alors que ce sont des organisations terroristes aux ordres d'un narco-État terroriste qui s'appelle la République islamique d'Iran. Je parle bien du FPLP, du Hamas, du djihad islamique, notamment. Là-dessus, je suis très clair.
Très bien. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec vous, Emmanuel Razavi, pour parler de cette situation en Iran et de ses développements. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio célèbre la fête des pères avec le vent à la française.com. Cette semaine, écoutez Sud Radio toute la journée pour tenter de gagner un bracelet élégant et personnalisé. un bijou unique pour un père qui l'est tout autant. Sud Radio et le vent à la française.com, un vent de caractère et d'affection pour tous les papas.
Sud Radio, parlons vrai.
Carrefour. Avec 50 euros de remise immédiate, la machine multiboisson Krups Piccolo XS Dolce Gusto, qui vous permet de réaliser plus de 45 boissons, est à 29,99€ au lieu de 79,99€. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Quantité limitée à 8000 pièces, référence YY5131FD, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Sud Radio Cahors.
105.
Sud Radio.
Carrefour. Quand vous me dites « L'Alef est une bière d'abbaye authentique et pleine de caractère, blonde, rubis, brune, ambrée », je pourrais en parler pendant des heures. Eh bien, je vous réponds qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit L'Alef acheté. Et c'est valable sur tout L'Alef. Alors rendez-vous jusqu'au 22 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
Nectarine ou Brugnon?
Je sais pas.
Pareo ou Pentacourt? Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Si, Volkswagen.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Cross à partir de 139€ par mois. Pour l'achat d'un T-Cross VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4000€, puis 36 loyers de 139€, si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer.
Les jours sans se priver avec Intersport.
Chez Intersport, c'est les jours
sans se priver.
Chez Intersport, jusqu'au 24 juin, le t-shirt homme Quicksilver Post-it est à 12,49€ au lieu de 24,99€, soit 50% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Chez Carter Cash, on se bat tous les jours pour les prix. C'est pour ça qu'ils sont imbattables. Toute l'année chez Carter Cash, vos pneus sont à prix bas et le montage est à seulement 9,90€ par pneu. Alors ça, c'est gonflé, rapide et sans rendez-vous dans votre magasin Carter Cash le plus proche. Prix du montage valable en France métropolitaine sous réserve de l'achat de pneus en magasin ou sur carter-cash.com.
Alain Afflelou présente
1, 2, 3, 3 paires pour bronzer, lire ou sortir. Pour le plaisir,
cet été, Chin Chin d'Afflelou, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus. La troisième, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien.
Mercedes-Benz.
Il vous faut quoi pour passer à l'électrique? Une grande autonomie, un SUV compact ou un SUV 7 places? Un loyer attractif? Et pourquoi pas une Mercedes? Jusqu'au 30 juin pendant les Star Days, profitez de l'EQA et de l'EQB 100% électrique avec le pack AMG Line des 399€ par mois.
Location longue durée 37 mois 45 000 km. Premier loyer de 399€, bonus écologique de 2000€ déduit si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Avant de revenir avec notre invité Emmanuel Razavi, on va continuer de faire le point sur cette escalade entre Israël et Iran avec vous, Jules Boscherini. Israël qui annonce avoir tué la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution.
Oui, tout à fait Alexis, c'est le ministère israélien de la Défense qui affirme dans un communiqué que les frappes aériennes de l'armée ont coûté la vie à la plupart des dirigeants de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. L'agence de presse Reuters évoque la perte d'au moins 20 hauts responsables et de son côté, l'Iran confirme qu'une frappe israélienne a tué le chef de la force aérospatiale des gardiens, Amir Ali Hajizadeh. Par ailleurs, les réactions des différents dirigeants internationaux continuent de tomber, celle de Donald Trump, par exemple, avec le président américain qui exhorte l'Iran à conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien, tout en ajoutant que les prochaines attaques seraient encore plus brutales. Et l'Elysée annonce également que le président de la République fera un point presse sur la situation internationale en fin de journée. Le format et l'horaire n'ont pour le moment pas été précisés, mais Emmanuel Macron doit également s'exprimer à 17h au Conseil économique, social et environnemental en clôture d'un forum sur la question palestinienne.
Donc des annonces sans doute de la part de l'Élysée en fin de journée. Alors voilà, la question des États-Unis, de Trump aussi, de l'hypocrisie, de finalement Donald Trump qui dit ne pas avoir été au courant mais qui explique à l'Iran qu'il serait temps de négocier. Trump qui voulait poursuivre les négociations et qui fait comme si les États-Unis n'étaient pas derrière le soutien à ces opérations israéliennes, un peu comme en Ukraine, sur l'opération Spiderweb. Là encore, l'administration américaine n'était soi-disant pas au courant. C'est soit étonnant, soit inquiétant, non, d'avoir l'allié numéro un d'Israël dire que j'étais pas au courant, mais c'est très bien qu'il continue.
Alors, écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Ça m'est arrivé ce matin à 7 heures. Un conseiller d'assez haut niveau américain m'a dit « Tu as vu le bluff de Donald Trump ?» J'avais ce message-là quand je me suis levé, vous voyez, mon petit déjeuner. Alors, je ne sais pas s'il savait, s'il ne savait pas. J'imagine qu'il me paraît très difficile que les Israéliens aient fait quoi que ce soit sans que les Américains soient au courant. Du reste, ça fait 48 heures, je suis pas le seul journaliste, hein, un certain nombre, en fait, de relais américains assez importants, proches d'agences de renseignement, ont prévenu plusieurs journalistes, en fait, que il fallait qu'on reste mobilisé dans les prochains jours, que voilà. Donc évidemment que Israël a sans doute agi avec le blanc-seing en fait américain, avec le discours de l'autre qu'il faut négocier absolument. Je crois que la réalité en fait de tout ça, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, si vous voulez, de la menace nucléaire. Vous savez, c'est un serpent de mer, on en parle depuis des années, sauf que là, en fait, on s'est rendu compte quand même ces derniers mois que Téhéran était vraiment proche de l'obtention, si vous voulez, de la bombe atomique. Alors, certains, comme le porte-parole tout à l'heure de l'armée israélienne, font état de 15 bombes, d'autres de 6, d'autres de 9. Je ne sais pas quel est le chiffre au final. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, je pense que ça a inquiété énormément. Il y a une deuxième chose, c'est que la menace terroriste, parce que quand même, l'Iran, depuis 1979, a fait du terrorisme, l'une de ses marques de fabrique. On parle de diplomatie du terrorisme très souvent quand on parle en fait de l'Iran. Et la menace, quand même, est montée de façon très importante. Je fais une parenthèse, il faut pas oublier que quand même les Iraniens ont essayé de tuer Donald Trump, hein. Donc il a aussi, je pense, si vous voulez, la vengeance qui l'habite. Ça, c'est le connaissant, je dirais, ses réactions telles qu'on les voit, on peut l'imaginer. Donc on est dans un moment, si vous voulez, en plus où l'Iran, je vous le disais tout à l'heure, est quand même très fragile. Ce qui veut pas dire qu'il faut la sous-estimer. Il y a quand même une armée qui compte plus de 400 000 hommes. Vous avez encore le corps des gardiens de la Révolution, même si leur état-major a été sévèrement endommagé. Il y a de nouveaux chefs qui viennent d'être nommés. Enfin, vous voulez, l'Iran, c'est quand même réagir. Donc, il ne faut pas sous-estimer, je dirais, leur capacité de nuisance. Mais en revanche, plus les heures passent, moins je vois, des options réellement militaires, en fait, pour l'Iran. Elle va sans doute essayer, si vous voulez, de s'en prendre à des cibles, en fait, peut-être américaines. Mm-hmm. C'est suicidaire. Vous imaginez bien que si des bases américaines sont ciblées ces jours-ci,
Marco Rubio a dit clairement, hein, pas touche aux bases américaines. En revanche, vous pouvez éventuellement répondre sur le territoire d'Israël, mais pas les bases américaines. C'est la ligne rouge. Hein.
Je voudrais vous dire une chose aussi, Alexis, qui est importante. Depuis ce matin, j'ai des échanges avec des gens à Téhéran et à Ispahan. Et en fait, alors bien sûr, il y a la peur, les bombardements, c'est une évidence. Mais des gens que j'ai eu au téléphone m'ont raconté que ils avaient dansé dans la rue. Alors même qu'il y avait des bombardements israéliens, d'autres sont partis sur
les... Très dangereux de faire ça. C'est très dangereux de faire ça en Iran, non? De se réjouir de frappes étrangères sur le territoire quand même.
Le peuple iranien n'est pas anti-israélien, contrairement au régime. La deuxième chose, c'est que ils n'en peuvent plus de ce régime, si vous voulez, qui est un régime tyrannique, très clairement. Et beaucoup d'Iraniens disent souvent, en fait, que si ce régime vient à tomber, ils feront de l'Iran la deuxième démocratie. Alors, je sais pas si ce sera le cas, hein, je vous dis ce qu'ils disent. Ouais. Mais la deuxième démocratie du Moyen-Orient après Israël.
Ouais, justement, l'Iran, qui est quand même un grand pays, hein, de culture, d'histoire, qui a connu cette révolution islamique, il y a quand même un aspect nationaliste qui est très sérieux. Enfin là je parlais d'attaque d'Israël sur l'Iran, c'est une réalité. Au-delà du régime des Mollahs, il y a quand même cette attaque là qui fait que le pays doit réagir et la communauté internationale doit aussi réagir, non?
Alors moi, je suis pas tellement d'accord avec vous parce qu'encore une fois, la puissance, agressante, c'est l'Iran depuis le départ. C'est l'Iran quand même qui a animé encore une fois le Hamas, le Hezbollah, le FPLP et j'en passe. C'est quand même ça l'origine.
Par exemple, Israël, on a eu aussi des déclarations ces dernières semaines sur le fait qu'Israël avait armé aussi des milices islamistes contre le Hamas. Enfin, donc cette guerre-là hybride, elle est des deux côtés.
Non, mais qu'il y ait une guerre hybride des deux côtés, vous avez raison. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je ne le sais que trop. En revanche, je pense qu'il y a une différence quand même qui est majeure, si vous voulez, entre Israël et l'Iran. C'est que Israël est une démocratie. clairement. Je connais bien Israël, j'y vais souvent en reportage, que l'Iran n'en est pas une. La deuxième chose, c'est qu'Israël n'a jamais cherché à agresser l'Iran. C'est l'Iran qui a commencé l'agression contre l'État hébreu en réclamant en fait la disparition totale, l'éradication d'Israël. Donc il y a quand même une réalité. C'est pour ça que je me permets de le ramener, parce que vous insistez beaucoup sur le fait de vous comparer Israël à la Russie. C'est pas le cas. La Russie a agressé.
Non, par rapport aux sanctions de la communauté internationale, hein, qui n'existe pas vis-à-vis de Netanyahou,
mais Israël se défend.
C'est toujours ça, se défendre. Mais jusqu'où? Parce que elle se défend, c'est la Cisjordanie, elle se défend, c'est la Syrie, elle se défend, c'est le Liban. Enfin, si n'importe quel pays faisait ça, je pense pas que ça passerait de la même façon. Si l'Iran se défend de la même façon, ça passerait pas. Enfin,
Écoutez, cher Alexis, l'Iran pratique le terrorisme depuis 46 ans. Je vais pas vous faire la liste des attentats terroristes commis, y compris à Paris.
Et financés, bien sûr, et financés. Oui.
Et il me semble que la communauté internationale n'a pas fait grand-chose. On a mis des sanctions en fermant les yeux, en leur laissant avoir même des banques. Il y a une banque iranienne à Paris dans le 16e arrondissement. On voit quand même qu'il y a des trous dans la raquette concernant les sanctions. Donc, si vous voulez, moi, je pense encore une fois qu'il faut... Et désolé hein, si on n'est pas d'accord, mais clairement...
mais c'est par rapport aux faits, encore. Ouais.
L'Iran, voilà, et la puissance qui a agressé depuis 46 ans Israël. Il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, si vous le permettez, Alexis. La majeure partie des Iraniens, d'accord, sont pro-israéliens et considèrent qu'Israël est le pays qui viendra les libérer de la République islamique d'Iran. Vous savez ce qui se dit depuis plusieurs mois, d'ailleurs depuis plusieurs années en Iran, quand les Iraniens, par les jeunes Iraniens notamment, les moins de 40 ans, qui ont même pas connu d'ailleurs le régime Pahlavi, le régime monarchiste avant, quand ils parlent en fait du régime de la République islamique d'Iran, ils parlent de puissance occupante. Vous savez pourquoi ? Ils considèrent en fait que c'est une république qui a été mise en place par Khomeini, qui avait été très influencé par les théories de Syed Qutb, le théoricien des frères musulmans. Oui. C'est une parenthèse dans l'histoire, si vous voulez, de l'Iran. Et donc, il ne faut pas être plus réaliste que le roi. C'est-à-dire que les Iraniens aujourd'hui attendent qu'Israël, pas tous, mais majoritairement, je parle des Iraniens de la population, attendent qu'Israël, je vous le dis parce que j'entends ça depuis 2 ans, régulièrement, vienne les aider à faire tomber le régime. Ça, c'est juste une réalité. Il y a des études qui ont été faites par certains instituts.
Au-delà de ça, on voit que l'Iran est isolé dans le monde arabe. Finalement, très peu de soutien du côté du monde islamique vis-à-vis de l'Iran.
Bah, écoutez, de toute façon, l'Iran a tout fait pour menacer, si vous voulez, les intérêts en fait du monde arabe. Vous voyez bien que quand l'Iran, par exemple, attaque des navires de commerce internationaux dans le détroit d'Ormuz, j'y étais dans le détroit d'Ormuz, je peux vous dire, c'est le Far West, et le Far West à cause de la marine iranienne. Qu'ils attaquent, si vous voulez, aussi via les outils en mer Rouge, des bâtiments aussi de commerce internationaux, c'est pas bon, évidemment, pour le commerce. Des pays arabes du Golfe qui sont des pays producteurs de pétrole ou de gaz et qui font pour partie transiter une partie de leur de leurs marchandises gazières ou pétrolières via le détroit d'Ormuz ou via la mer Rouge, entre autres choses d'ailleurs. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, alors quand on discute officiellement, moi je vois quand j'étais à Abu Dhabi, les officiels en on ne disent jamais rien contre l'Iran, mais quand vous êtes en off avec eux, évidemment ils vous disent qu'ils souhaitent qu'une chose, c'est que ce régime tombe, parce qu'il amène trop d'instabilité en fait aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de, parce qu'on a vu ces changements de régime initiés par l'Empire américain, l'Irak, on a vu ce que ça a donné, la Libye, on a vu ce que ça a donné, l'Iran qui se rêve puissance régionale, certes de déstabilisation, mais si jamais se retrouve en proie à une déstabilisation de régime, est-ce qu'on ne va pas avoir une situation aussi chaotique que ce qu'on a pu voir en Irak ?
Alors, moi, je suis pas devin, mais je peux vous raconter une chose qui va vous intéresser, puisque je travaille beaucoup sur les éléments de langage, en fait, de l'Iran. Vous savez que l'Iran fait passer depuis des mois, je l'ai raconté d'ailleurs, j'ai interviewé un ancien agent français infiltré au sein des services secrets iraniens, qui s'appelle Mathieu Gadiri, qui a écrit un livre qui s'appelle Notre agent iranien. Il raconte que le fait de dire que l'Iran va devenir la Libye ou pourrait devenir l'Irak, donc ce sont des éléments en fait de langage qui ont été mis en place par les agents du ministère des Affaires étrangères iranien et les services secrets iraniens. Deuxième chose, l'Iran c'est pas un pays arabe. Il y a un niveau en fait d'éducation très important. Vous savez que les jeunes iraniens ont un très haut niveau universitaire en général. les organisations de l'opposition, des oppositions aujourd'hui iraniennes. Moi, je les connais toutes, hein, donc de gauche à droite, de gauche aux monarchistes. Ce sont des gens qui sont apaisés, qui ne veulent pas voir de partition de l'Iran. Et moi, je discute avec eux régulièrement, puisque je les interroge régulièrement pour les journaux comme Paris Match, pour lesquels je bosse. Et ils disent tous qu'il faut trouver le moyen, à un moment donné, d'une coalition pour faire en sorte de maintenir la stabilité du pays. Alors, une fois, je suis pas devin, je sais pas ce qui se passera, mais vous comprenez bien que quand les oppositions iraniennes elles-mêmes disent cela, et que des personnes soi-disant bien informées en France vous expliquent que l'Iran va devenir la Libye, il y a quand même une dichotomie, si vous voulez, entre les Iraniens et ce qui est relayé comme message par certains représentants de think tank que je ne nommerai pas. Voilà. Donc, c'est quand même une réalité aussi. Je suis désolé parce que vous le disiez à raison d'ailleurs, hein, il faut être factuel. Moi, je suis reporter, je suis très factuel. Mais j'ai un avantage sur beaucoup de mes confrères, c'est que je suis aussi né dans une culture
iranienne. Vous connaissez très bien
que je connais bien et que j'ai accès à plein de choses. Voilà.
On va justement marquer une courte pause et revenir sur cette culture iranienne, cette place particulière de l'Iran comme puissance régionale, et la suite, bien sûr, de ce que pourrait être l'escalade entre Israël et l'Iran sur Sud Radio dans un instant.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.
Tout le monde peut appeler, donner son avis, qu'il plaise ou qu'il plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif. Et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous.
Sud Radio, parlons vrai.
À tous ceux qui enfilent des framboises sur leurs doigts avant de les manger. À ceux qui lancent des petits fruits en l'air pour les attraper avec leur bouche. À ceux qui braquent leur maman avec une banane. Et à tous les enfants à qui on a répété combien de fois de ne pas jouer avec la nourriture. Non mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre.
Jusqu'à samedi, Intermarché propose les cerises Origine France à seulement 5,59€ le kilo. Et c'est pas pour faire des boucles d'oreilles. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur tous les fruits et légumes.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Calibre 26+, catégorie 1.
Sud Radio Béziers
104.7
Sud Radio.
Savez-vous que la révision de votre voiture peut vous rapporter gros ? Oui, un gros électroménager. Du 2 juin au 26 juillet, jouez avec Bosch Car Service. Effectuez votre révision dans l'un de nos 650 centres Bosch Car Service et tentez de remporter l'un de nos électroménagers mis en jeu par le groupe Bosch. Peu importe la motorisation de votre voiture, thermique, hybride ou électrique, vous avez toutes vos chances. Trouvez votre garage le plus proche sur boschcarservice.fr. Règlement du jeu concours sur notre site.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pas vrai Jean-Marc ?
Oh ça oui !
D'ailleurs en ce moment et jusqu'au 21 juillet, Netto vous propose de collectionner 7 peluches Les Mignons à seulement 5€ la peluche pour 10 vignettes collectées.
Seulement 5€ la peluche Les Mignons ? Je suis complètement fan !
Retrouvez toute cette joyeuse équipe déguisée en fruits et légumes pour l'occasion. Bob en fraise, Stuart en avocat, et Kevin en banane, j'imagine. Banane !
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Une vignette cagnottée tous les 10€ d'achat. Plus d'infos sur netto.fr.
Pas très confort ces transats, non ?
Ah, je suis bien, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là ?
Bah, je veux dire la mer ?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339€ par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0€ après bonus écologique de 2000€ déduit. Sur réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous préférez partir à Hawaï en claquant des doigts ou surfer avec grâce sur les vagues de la vie ? Il y a des choix difficiles à faire, on est d'accord, comme choisir entre la qualité et le prix. Heureusement pour ça, il y a la paire. Du 5 au 23 juin, pendant les 18 jours pour tout rénover, il y a moins 15% sur tout le magasin des 1000€ d'achat. Entre la qualité et le prix, choisissez les deux, choisissez la paire. Cuisine, salle de bain, menuiserie, la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur lapaire.fr.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount.
Ben oui, chez Aldi, nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque. Fraîches et juteuses, elles vous permettront aussi de surprendre vos convives avec un petit...
Ben, tu sais que ça se grille, les pépins de pastèque. Ben, c'est la tendance gourmande du moment, hein.
Oui, vraiment, nos pastèques ont tout d'une très bonne pastèque, mais à prix discount. 3,99€ seulement la pièce. Oui, 3,99€.
Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, origine Espagne, offre valable jusqu'au samedi 14 juin, info sur aldi.fr.
Alexis Poulain, sans réserve. L'invité.
Et on se retrouve sur Sud Radio avec Emmanuel Razavi, grand reporter, auteur du livre La Face Cachée d'Emola aux éditions du Cerf. On parlait de Donald Trump quand même. À chaque fois qu'il est élu, il se passe des trucs, notamment vis-à-vis de l'Iran. C'était l'assassinat ciblé de Soleimani lors du premier mandat. Et aujourd'hui, on voit bien que Benjamin Netanyahou a le soutien inconditionnel de Donald Trump hein, pour réaliser ses opérations. Est-ce que finalement, sous couvert d'être soi-disant ce président pacificateur, Donald Trump ne cherche pas la confrontation finale avec l'Iran?
Alors écoutez, j'ai posé la question il y a près de 2 mois en fait à un conseiller en fait américain qui participe à haut niveau en fait aux discussions sur l'Iran, et il m'a assuré que Trump voulait absolument trouver une solution, si vous voulez, négocier en fait avec la République islamique d'Iran, parce que Trump était un homme d'affaires, quoi, et c'était dans son ADN, si vous voulez, de trouver toujours à négocier, qu'une négociation était soi-disant meilleure que qu'une guerre. Mais en revanche, il m'avait dit attention, les Iraniens ne devront pas jouer à essayer de gagner du temps indéfiniment, parce que dans les 2 mois, il tapera du poing sur la table. Alors vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé, parce qu'on imagine bien qu'Israël, de toute façon, n'est pas allé frapper l'Iran sans avoir en fait le blanc-seing de Donald Trump. Hein. Du reste, Donald Trump, je crois qu'il a qualifié d'ailleurs l'attaque israélienne d'excellente, me semble-t-il, tout à l'heure. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, très clairement.
Bah, c'est un soutien total, hein, clairement, à Israël.
Oui, bien sûr. Bah, en clair, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un soutien absolu, c'est un blanc-seing en fait total, ce qui veut dire clairement que ça va pas s'arrêter d'ici quelques heures comme certains pourraient l'espérer.
Mais il y a quand même quelque chose d'inquiétant dans cette confrontation. C'est à la fois au sein du gouvernement Netanyahou une branche ultra hein, qui rêve du grand Israël et qui ne s'en cache pas. Ça pourrait générer quand même davantage de tensions et de déstabilisation dans la région. Et puis ce président Donald Trump hein, qui ouvre des fronts finalement partout en ayant un double discours de dire moi je veux la paix en 24 heures en Ukraine. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Qu'il négocie pendant 2 mois avec l'Iran et quand ça ne marche pas, on envoie les bombes, c'est toujours assez radical avec Trump. Est-ce que ça ne peut pas dégénérer ?
Encore une fois, je suis pas devin, je me garderai bien, si vous voulez, de faire des prévisions, parce qu'on ne sait pas. Il y a une donnée qui est importante, c'est la population iranienne. Vous savez que les Iraniens, c'est à peu près 88 millions et demi d'habitants en Iran. La moyenne d'âge, 32 ans. C'est une population assez jeune, extrêmement éduquée, et c'est une population qui aujourd'hui ne veut plus en fait de la République islamique d'Iran. C'est une population qui a fait aussi ressortir ces dernières années, vous savez, ces vieux symboles. Vous savez que il y a une très très vieille symbolique, d'ailleurs des histoires que l'on raconte. Moi, quand j'étais enfant, je les ai entendues du peuple juif libéré par le roi Cyrus II le Grand, donc qui était un roi, un grand roi en fait de Perse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amitié entre le peuple israélien, le peuple juif et le peuple perse existe depuis 2600 ans, avec cette parenthèse, comme le disent les Iraniens de l'intérieur, qui est cette république islamique, si vous voulez, qui n'a rien à voir avec l'ADN réellement, ça je peux vous en parler, de ce qu'est la culture
perse.
Et cette dimension, je pense, moi, culturelle, sociologique, elle est extrêmement importante à prendre en compte, et je la vois peu prise en compte globalement d'ailleurs dans ce que je lis dans les différentes analyses, que ce soit aux États-Unis ou en Europe chez mes confrères. Moi, je peux vous dire que les Iraniens avec lesquels je parle, qui sont des gens de tous bords en fait, parfois apolitiques, mais qui peuvent être, comme je vous disais, chauffeurs de taxi, paysans ou travailler à la ville ou être cadre, tous disent qu'il faut que ce régime s'arrête. Et aujourd'hui, si vous voulez, je ne vois pas Israël menacer qui que ce soit. Je vois plutôt Israël être menacé par la République islamique d'Iran. Et je pense que l'extrême droite israélienne dont vous parliez tout à l'heure, elle ne serait pas aussi forte encore, pour autant qu'elle le soit d'ailleurs, hein, parce que moi quand je vais en Israël, je vois quand même globalement que la majeure partie des Iraniens en ont ras le bol, hein, de ces gens-là aussi. Mais
oui,
je
veux dire, c'est des ultras, donc
voilà, c'est des ultras. Mais je crois pas que les Israéliens aient envie, si vous voulez, d'aller conquérir d'autres pays en fait que le leur. Il y a la question aujourd'hui qui se pose évidemment de Gaza. Moi, vous savez, Gaza, j'étais il y a quand il y a eu le désengagement de Gaza. J'ai fait un reportage en fait là-bas. L'armée est partie, les Iraniens sont partis, les colons ont été évacués.
Les Israéliens, pas les Iraniens.
Enfin, les Israéliens. Oui, je vous ai dit, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus, mais je parlais de l'armée israélienne. Les Palestiniens ont mis au pouvoir le Hamas à Gaza. C'était un mauvais choix. C'est comme ça, ils ont mis des terroristes au pouvoir, ils en payent l'addition aujourd'hui. Mais je pense que si vous voulez, l'une des données, pour ne pas dire la donnée essentielle en fait du problème aujourd'hui, c'est quand même la République islamique d'Iran qui pousse sans arrêt ses proxys, si vous voulez, à agresser en fait Israël.
Le problème de la colonisation aussi qui est à l'origine. Enfin, on peut pas dire que c'est uniquement d'un côté. Ce problème de la colonisation, il est central aussi dans la déstabilisation régionale.
On parle de Gaza spécifiquement.
Oui, mais sur Gaza, vous voyez bien, il y a quand même.
Excusez-moi, il y a des colons à Gaza. Où est-ce qu'il y a des colons à Gaza?
Il y avait l'armée d'occupation israélienne, par exemple.
C'est pas vrai, l'armée était partie. J'étais moi.
Elle était partie, mais elle y était bien.
Non, Alexis. Alors, je vous aime beaucoup et vous êtes très brillant, mais là, vous faites une erreur. On était des milliers de journalistes, si vous voulez, à avoir documenté le retrait de l'armée israélienne en fait de Gaza.
Oui, elle était partie, bien sûr.
Gaza est en fait aux Palestiniens. Ils ont eu leurs élections. Ils ont mis en place le Hamas, et c'est le Hamas qui contrôlait Gaza. Et il n'y avait absolument plus de colons en fait à Gaza. Ils ont été dégagés.
Je parlais pas de Gaza. Là, je parlais de la Cisjordanie.
Je parlais de Gaza. Bien sûr qu'il y a cette problématique. Mais ça, c'est une problématique.
Parce que c'est une problématique à prendre en compte quand même.
Ah ben non, mais ça je suis d'accord, mais ça je vous ai jamais dit le contraire. La problématique de la Cisjordanie aujourd'hui est très importante, c'est une évidence, et je vous dirais pas le contraire. Mais en revanche, vous êtes en train de me parler en fait d'un problème, qui est un problème en fait qui est concernant sur le plan intérieur en fait d'Israël. Là où, 2 minutes plus tôt, vous me parliez, si vous voulez, d'un Israël, si vous voulez, conquérant, voilà. Et moi, je suis en train de vous rappeler juste qu'aujourd'hui, le problème international s'appelle l'Iran. L'Iran, aujourd'hui, met en danger une démocratie qui s'appelle Israël. L'Iran met en danger, aujourd'hui, la stabilité, en fait, du Golfe Persique, donc des États arabes du Moyen-Orient. L'Iran menace en permanence nos pays. La France, en premier lieu, d'attentats terroristes. L'Iran retient des otages français encore.
Absolument. On en parle très peu d'ailleurs.
Excusez-moi, quand même, il y a vraiment un sujet.
Ouais.
Et je peux vous dire, parce que moi, je parle avec des gens de l'intérieur du régime iranien que j'interviewe, mais ils nous considèrent comme des faibles. Ils n'ont aucune considération, si vous voulez, pour la diplomatie aujourd'hui française, à tort ou à raison. Je suis pas en train de faire un jugement. Je les interroge. Voilà, il est temps quand même d'espérer que ce régime, à un moment donné, qui est un régime en plus qui tyrannise sa population, je l'aurais beaucoup dit pendant votre émission, cher Alexis,
oui. Il
est quand même temps quand même que ce régime, à un moment donné, voilà, dégage, je l'espère le plus rapidement possible. Ce qu'en seront les conséquences aujourd'hui, moi je suis pas dans l'alarmisme de certains qui parlent de partition de l'Iran, parce que j'entends jamais ça auprès des Iraniens. Voilà, ça tient pour moi aujourd'hui un peu de la fiction, si vous voulez, ce genre d'analyse.
On verra, on va suivre de toute façon les développements dans la région sur Sud Radio. Merci Emmanuel Razavi, grand reporter, spécialiste de la question iranienne, auteur de La face cachée des Mollahs aux éditions du Cerf, d'avoir été avec nous. De manière plus légère, eh bien nous avons une gagnante, Catherine de Puteaux, hein, qui remporte le bracelet de la collection Lettres du vent à la française. Et puis, si vous êtes tendu, évidemment, il est temps de se détendre. On va parler masturbation féminine avec Brigitte. Là, est-ce qu'on peut utiliser des sextoys après 50 ans, même en cas de guerre nucléaire? Bonne question. On va y répondre tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Ah, je sais pas.
Mer ou montagne?
Aucune idée.
Volkswagen ou...
Volkswagen.
J'ai pas dit la fin.
Ah, mais Volkswagen.
Oui.
C'est parfois facile de choisir. Surtout pendant les instants Volkswagen du 12 au 16 juin, avec le T-Roc à partir de 169 € par mois. Pour l'achat d'un T-Roc VV édition 9, LLD 37 mois, premier loyer de 4 000 €, puis 36 loyers de 169 € si acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Nîmes.
104.7.
Sud Radio.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 € hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Mon dictionnaire me dit concombre, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Oui.
En fait, c'est concombre français, légume apprécié pour sa fraîcheur.
Et pour son prix, car du 13 au 15 juin, les concombres français sont à 1,35 € les deux. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 68 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Observons un bricoleur à tête froide dans son jardin. Il cherche la fraîcheur durant la saison chaude. Et sur Mano Mano, il trouve les parasols, clim et piscine pour enfin les arder tout l'été. C'est ça, l'effet Mano Mano.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Offre soumise à condition, voir détails sur manomano.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô, t'as vu le prix des glaces Magnum chez Lidl? Ça me glace.
Oh, j'ai vu, patron. En ce moment, il y a moins 60% sur le deuxième paquet de Magnum amande ou chocolat blanc. Soit 2,65€ le deuxième paquet au lieu de 6,64€.
2,65€ le paquet de Magnum. J'en ai des frissons.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 735, 750 grammes, 6,64€ le paquet vendu seul, 9,03€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 euros est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster essentiel mild hybride 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 14h.
Parlons vrai.
Les infos avec François Germain.
Bonjour à tous. Israël regrettera son acte. Les mots du président iranien alors que l'armée israélienne bombarde les installations militaires du pays pour viser les sites de production nucléaire.